Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène dans un camp de réfugiés syriens. Nous sommes au Liban et vous verrez que la musique, apprendre la musique, est une thérapie qui marche. 18h40 Brexit, saison 2, c'est Antoine Gignoux avec des emblées qui, semble-t-il, craignent plus le retour des travaillistes que le Brexit pour leur porte-monnaie. 18h55, Planète Média, Alexandra Kuhn avec notamment les excuses du Washington Post à Trump et un journaliste français en détention provisoire au Cachemire. 18h55, Anthony Bélanger nous raconte l'ouverture des cinémas en Arabie Saoudite. Mais tout de suite, direction un pays qui sombre encore, mais dont on n'a pas pris de nouvelles depuis l'été, c'est l'occasion de le faire. Nous allons au Venezuela. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bienvenue.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Todos los domingos, me dice Escalona, a las 5 de la tarde, por TV y por el canal de televisión Corazón Llanero, está el concurso nacional.
Allez, Nicolas Maduro, donc pour son Domingo Maduro, ça veut dire qu'il s'adresse tous les dimanches au peuple vénézuélien pour leur apporter la bonne nouvelle. J'ai un peu envie de le dire comme ça. C'est vrai qu'on l'a perdu de vue un petit peu, ce pays, le Venezuela, depuis l'installation de la Constituante, depuis l'été, depuis l'énorme crise qui avait eu lieu à ce moment-là. Depuis, cette crise, elle se poursuit économique aussi. Le président Maduro, qui la semaine dernière annonçait une nouvelle monnaie, qui hier a été vainqueur de municipales, largement remporté par les mais sans la participation de l'opposition. Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Élection municipale donc ce dimanche, 335 mairies, avec une opposition qui a choisi le boycott. Est-ce que ça dit quelque chose, ou pas plus finalement, du chaos politique de ces dernières semaines?
En réalité, ça s'inscrit dans une séquence qui a démarré après la période des 4 mois de violence et d'insurrection qui ont secoué le pays. C'est une séquence qui a été ouverte avec l'installation de l'Assemblée nationale constituante, et puis qui a continué ensuite avec des élections régionales le 15 octobre, c'est pas vieux, là le 10 décembre municipal, et cette séquence va continuer certainement jusqu'à la prochaine présidentielle qui va être en 2018, et d'ailleurs quand en 2018 est un enjeu de la séquence elle-même. Alors en même temps, cette élection municipale était un peu prévisible. Juste un point, l'opposition n'a pas boycotté intégralement cette élection. Sur les 22 parti qui constitue la coalition de la table de l'unité démocratique, la MUD en espagnol. 18 ont participé à l'élection, mais parmi les 4 qui restent, il y a les plus gros partis de l'opposition qui n'ont pas participé à l'élection, tout en permettant à certains de leurs candidats de se présenter comme indépendants localement. Vous savez, comme sont les listes municipales, c'est toujours compliqué. Donc, ils ont pu se présenter localement ou avec d'autres partis pour concourir à l'élection.
Mais du coup, est-ce que c'est lisible réellement pour les gens, ce rôle de l'opposition? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'on peut mettre un nom dessus aujourd'hui?
Il faut admettre que c'est très compliqué, surtout vu de Paris, de comprendre l'opposition. Et pourtant, c'est un des facteurs clés pour comprendre la situation politique au Venezuela. L'opposition vénézuélienne n'est pas en bonne situation. C'est une coalition, donc, comme j'ai dit, de 22 partis, qui va de ce qu'on considérerait, nous, d'être le centre-gauche, social-démocrate, jusqu'à la droite dure et peut-être même au-delà, avec un point de ralliement unique, qui est le changement de régime. En fait, c'est ça le point de ralliement de toute cette opposition. Derrière, quel est son programme économique? Qu'est-ce qu'elle propose pour sortir le pays de l'ornière? C'est pas très clair, en tout cas pas pour les Vénézuéliens. Manifestement, l'opposition, depuis ces derniers mois, a perdu du terrain parce qu'elle n'a pas réussi à obtenir le départ de Maduro, elle n'a pas réussi à désolidariser l'armée du gouvernement. Et elle n'a pas réussi non plus à embarquer avec elle, si je puis dire, les classes populaires qui constituent en réalité le noyau, le poumon du chavisme sociologique dans ce pays. Et elle a s'est ouvert pour elle une crise, en fait, au sommet, qui fait qu'elle s'est divisée, émiettée, et aujourd'hui elle n'apparaît pas comme une alternative pour les problèmes vénézuéliens, en particulier les problèmes économiques qu'ils veulent voir réglés.
Alors, l'armée que vous citiez à l'instant, c'est un peu la clé aussi, la clé de voûte de cette affaire. On y viendra dans un instant, mais du coup, l'état de popularité de Maduro au Venezuela, c'est quoi, en fait, aujourd'hui?
L'état de popularité de Maduro, encore une fois, il ne vaut que s'il est évalué par rapport à l'état de la popularité des autres, y compris de l'opposition. Et là, on comprend que c'est plus complexe que ce qu'on veut bien voir. Alors, la popularité de Maduro, elle oscillerait, selon les sondages, entre 10-20% des opinions dans le pays.
Ce qui n'est pas beaucoup.
Ce qui n'est pas beaucoup, mais dans le même temps, 80-85% de la population rejette aussi l'opposition, en tout cas n'est pas d'accord avec la stratégie qu'elle a employée ces derniers mois. Donc, c'est ça la situation. Et aujourd'hui, il n'y a personne dans l'opposition qui arrive à avoir un leadership incontesté, incontestable. Et finalement, ça profite à M. Maduro, qui lui, même avec cela, continue d'être, disons, la figure de direction hein, du chavisme, qui n'est pas du tout un ensemble monolithique, hein, qui est quelque chose d'assez complexe. Mais aujourd'hui, et dans la configuration actuelle, il reste la figure de direction qui est celle qui est acceptée et qui va donc concourir aux élections présidentielles, puisqu'il l'a annoncé.
Ceux qui étaient partis, ceux de l'opposition qui sont partis après l'été, après les crises de l'été, est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce qu'ils sont toujours à l'étranger? Est-ce que du coup, il n'y a même pas un nom, en fait? Quelqu'un au moins auquel on pourrait se rattacher?
Non, il y a au moins deux noms qui circulent. Il y a M. Ramos Alup, alors ça ne dira pas grand-chose.
Dont on n'a jamais entendu parler, ça dit des choses.
Voilà, hein. Alors Ramos Alup est pourtant tout sauf un perdreau de l'année, si je puis dire, parce qu'il était déjà un dirigeant politique avant l'époque de Chavez. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a participé, si vous voulez, à la direction de la vie politique vénézuélienne pendant les décennies qui ont précédé Chavez, lorsque le pays était gouverné par une forme de bipartisme entre les sociodémocrates et les démocrates chrétiens. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient de l'ancien régime, si je puis dire, avant le chavisme. Et c'est aujourd'hui lui qui a la corde, hein, puisqu'il représente le parti Action démocratique, qui est donc, disons, le parti social-démocrate de centre-gauche vénézuélien. Le deuxième s'appelle Julio Borges. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'est pas au Venezuela, il est en Italie. Il est à Rome. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères italien, ainsi qu'un représentant du pape. Et puis, M. Lesdema, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, parce que c'est quelqu'un qui a fui le pays, sera dans les jours qui viennent à Bruxelles pour recevoir le prix Sakharov du Parlement européen pour l'opposition démocratique qu'il critique désormais et dont il a annoncé qu'il allait la quitter pour créer une nouvelle plateforme qui refuse tout dialogue avec le gouvernement. Donc vous voyez que la carte de l'opposition est quand même très complexe.
Mais tout ça, est-ce que ça veut dire que, alors vous le disiez effectivement, la date des élections, on sait que c'est 2018, on ne sait pas très bien à quel moment, mais est-ce que ça donne un boulevard à Maduro, ça, ou pas?
Écoutez, aujourd'hui, si l'élection avait lieu aujourd'hui présidentielle, écoutez, oui, je crois que les chavistes auraient l'avantage. Il n'y a pas de doute. Encore une fois, ils représentent toujours un noyau assez significatif, hein, même s'ils ont peut-être un peu perdu en nombre de voix, quoique. Hein, là, ils ont quand même fait 8 millions au régional dernière. C'est énorme. Au Venezuela, c'est un pays de 30 millions d'habitants. Vous avez un corps électoral qui est un peu moins de 20, donc c'est quand même très important. Mais quand, en face de ça, vous avez une opposition qui, aujourd'hui, dans les sondages, quel que soit le candidat dont j'ai parlé de Borges, de Ramos Alup ou de Lesdema, oscille entre 4 et 15% des intentions de vote, quand Maduro aujourd'hui est plutôt à 28-30 malgré tout. Hein. Et ce n'est pas des sondages du gouvernement, c'est publié par le Miami Herald, qui est un journal de Floride qui est tout sauf pro-vénézuélien. La situation est celle-là. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement quand elle va avoir lieu cette élection présidentielle. La Constitution indique que normalement elle doit se passer en décembre de l'année, mais elle permet aussi d'avancer. Ça, et ça va être en réalité un objet d'une négociation politique entre le gouvernement et cette opposition. Négociations qui ont lieu actuellement, dont la prochaine réunion se tiendra le 15 décembre en République dominicaine.
Christophe Ventura, Maduro a institué au mois d'avril dernier une sorte de plan de défense qui renforce la présence policière et militaire. Il a renforcé les milices civiles aujourd'hui. Est-ce qu'on dit encore président Maduro? Est-ce que vous diriez dictateur Maduro? Est-ce qu'on n'en est pas exactement encore là? Est-ce que ce terme est pour l'instant encore impropre ou pas?
Je crois qu'il faut faire très attention dans le cas du Venezuela, parce que c'est un pays qui vit une situation totalement atypique du point de vue des relations internationales. Il n'existe pas, à ma connaissance, de précédent ou de pays qui a l'évolution qu'a le Venezuela actuellement. Donc on n'est pas dans quelque chose qu'on connaît. Je crois que le terme de dictature est un terme qui est miné, parce que c'est celui de l'opposition, précisément. C'est le terme, c'est l'élément de langage de l'opposition pour qualifier l'adversaire qu'elle veut disqualifier. On est dans un pays où, disons, les formes normales de l'état de droit sont brutalisées, où elles sont, par moments, on sort de l'état de droit au Venezuela, mais enfin, globalement, on reste dans un pays dont les règles sont celles d'une démocratie formelle. C'est un pays dans lequel l'opposition existe. Elle est autorisée à manifester, à se présenter aux élections. Alors, elle fait le choix de ne pas y aller quand ça l'arrange pas, de y aller quand ça l'arrange. Il y a des médias. Vous savez, le Venezuela, c'est le pays qui est, je crois, le plus équipé au monde en termes de réseaux sociaux et de Twitter. Donc, une guerre médiatique a lieu en permanence entre les protagonistes d'un camp comme de l'autre. Ça correspond pas à ce qu'on appellerait une dictature. Je crois que le terme est vraiment excessif.
Mais alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à la fois des échanges et des amitiés entre le Venezuela et Cuba, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de similitude avec un président civil et autour l'armée qui tient des rênes extrêmement importantes?
Mais vous savez, si on veut comprendre la rationalité et l'histoire de ce qu'on appelle le chavisme, en fait, qui est arrivé il y a 20 ans maintenant, finalement, avec les premières élections de Hugo Chavez en 98. Qu'est-ce que c'est le chavisme? C'est théorisé par Hugo Chavez. Le chavisme, c'est ce qu'on appelle une union civilo-militaire. C'est ça qui constitue disons, la colonne vertébrale de ce mouvement. C'est précisément une alliance entre une plateforme politique qui regroupait à l'époque de l'extrême gauche, qui est aujourd'hui assez avancée dans les postes au gouvernement, et puis qui allait jusqu'à une partie du centre-gauche, mais aussi une partie plus, liée à la tradition nationaliste au Venezuela, et une alliance avec l'armée, avec dans le projet théorisé tel qu'il est, hein, je vous dis comment il était théorisé, au service et en faveur de l'émancipation, finalement, de la souveraineté nationale vénézuélienne et de la souveraineté populaire. C'est ça, le chavisme, du point de vue théorique. Et du coup, oui, il est clair qu'aujourd'hui cette alliance est renforcée, surtout en période d'adversité, lorsque le pays fait face aux convulsions internes qu'on connaît. C'est une économie aussi, c'est peu de le dire, qui est mal en point, mais une économie aussi qui est attaquée. Donc tout ça renforce les logiques de polarisation en réalité.
Alors est-ce que justement, vous parlez de l'économie, est-ce que la baisse du prix du pétrole est le seul responsable de cette crise économique? Est-ce que c'est trop facile de dire ça?
C'est pas complet.
Alors ça date d'avant Maduro par ailleurs, hein, le début de la crise économique.
Oui, c'est pas complet. Mais bon, il est clair que imaginez en France, si les 4-5 filières économiques qui tiennent l'économie française s'effondrent du jour au lendemain, ce serait une déflagration économique et sociale.
Il faut rappeler quand même la plus grosse réserve de pétrole. C'est quand même fou. C'est un pays riche, le Venezuela.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aucun des problèmes auxquels il est confronté ne va se résoudre de manière classique. Parce que même sur l'affaire du défaut partiel, qui n'est pas un défaut total, eh bien, le pays est assis sur des richesses qui font qu'il ne coulera pas. Mais pour revenir à votre question, le pétrole, évidemment, c'est quand même le gros morceau. C'est-à-dire que, si vous voulez, la conjonction en 2013 a été terrible pour le pays. Hugo Chavez meurt, le leader fondateur de la révolution bolivarienne. Il est remplacé par Maduro qui est élu d'une courte tête.
50,7%, quelque chose comme ça.
Donc il est élu. L'opposition voit qu'elle a un boulevard pour enfin affaiblir son adversaire. Elle ne reconnaît pas l'élection de Maduro. En fait, on a un vice de légitimité depuis 4 ans au Venezuela. Depuis qu'il a été élu, une partie de l'opposition ne reconnaît pas la légalité et la légitimité de son élection. Donc on est quand même dans une situation qui est spécifique, avec une opposition qui ne reconnaît pas la légalité de la situation. Or, elle a gagné l'élection. Et par ailleurs, au même moment où tout ça arrive, le pétrole s'effondre, perd 70% de sa valeur, et le pétrole égale 95% des devises qui rentrent dans le pays. Bon, déjà, gros problème. Mais le deuxième problème économique qui est lié à ça, c'est la question, alors c'est un peu technique, je vais essayer d'être simple, c'est la question des répercussions du contrôle de change, c'est-à-dire la politique monétaire du Venezuela. Si vous voulez, en 2004, Chavez avait mis en place un contrôle de change pour éviter une fuite des capitaux, considérant que les entreprises et les secteurs privés voulaient l'affaiblir en sortant les capitaux du pays. Bon, qui est une vieille mécanique.
Une vieille rengaine,
voilà. Il avait mis un contrôle d'échange. Le problème au Venezuela, c'est que comme l'État, concentre à la fois la ressource pétrolière et à la fois l'accès au dollar, eh bien, c'est là que, en créant cette situation, il y a un marché noir de la monnaie qui s'est mis en place, qui est devenu hyper boursouflé et sur lequel des richesses se sont faites de manière spéculative jusqu'à détruire l'économie. Et l'inflation, elle vient de là. Elle vient aussi de formes de sabotage ou de certains appellent ça la guerre économique. Et c'est le mix du pétrole et de ça qui crée la situation.
Et est-ce que c'est pour ça que Maduro veut créer ce qu'il a appelé le pétrole? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très sérieux, mais c'est peut-être une manière, cette nouvelle monnaie, de remettre les choses à plat, en fait. C'est à ça que c'est censé servir.
Écoutez, je crois qu'il cherche tout un tas de solutions, en plus, encore une fois, de son point de vue, si on comprend sa rationalité dans un moment d'adversité forte, parce que vous savez qu'il est littéralement coupé des circuits financiers avec les sanctions américaines, qui interdisent à toute entité américaine financière, banque ou entreprise de commercer, de faire des transactions, de négocier avec l'État vénézuélien, mais aussi avec la compagnie pétrolière. Donc pour le Venezuela, autant dire que c'est quasiment une forme de blocus financier. Alors l'affaire de la monnaie crypto-monnaie, c'est pas ma spécialité, je vous l'avoue, c'est très complexe avec le Bitcoin et tout ça.
Personne n'a vraiment compris ce qu'il allait mettre en place.
Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait référence à une proposition qu'avait commencé à travailler Hugo Chavez il y a quelques années, et qui était en fait de créer une monnaie commune entre les pays de l'OPEP, qui était une sorte de pétro-monnaie, on va dire, pour justement se défaire de la dépendance au dollar. C'est ça l'idée. C'est que comme c'est des pays qui sont en fait littéralement dépendants du dollar et de ses cours et des politiques de la Fed en particulier, de la réserve américaine, etc., l'idée c'était de relâcher cette tutelle du dollar sur les économies pétrolières. Et donc, qu'il s'agissait de créer une monnaie, un peu à l'instar de l'euro pour les Européens, finalement, etc. Ce projet n'a jamais vu le jour. Alors, j'ai cru comprendre que dans le projet qui est celui du Bitcoin vénézuélien, qui serait le pétrodollar, c'est un peu la même philosophie, mais aujourd'hui, je crois qu'il est un peu tôt pour savoir de quoi on cause exactement.
Mais moi, j'ai un peu l'impression qu'on se mord la queue, vous m'arrêterez si je me trompe, parce que le système de production, par ailleurs, est particulièrement obsolète. Il y a des secteurs financiers autour, évidemment, qui n'ont plus confiance. Puis, vous l'avez dit, c'est très compliqué avec le blocus américain, enfin, si on peut appeler ça un blocus. Chavez avait largement puisé dans ces réserves-là pour faire ses programmes sociaux. Il paraît que le pétrole vénézuélien, notamment, est très lourd. Oui. Il est très difficile. Donc, en gros, on exporte le pétrole, mais on fait venir l'essence. On a l'impression qu'on est un peu coincé, quand même.
C'est vrai que c'est un peu... Il y a de ça, c'est tout à fait vrai. Alors, le pétrole vénézuélien, il est à la fois très lourd, bitumeux, très compliqué à raffiner pour être utilisé, et en même temps, il est absolument nécessaire à la consommation courante de c'est avec ce pétrole-là qu'on fait les huiles qu'on utilise, par exemple, dans la vidange de vos moteurs de voiture, etc. Enfin, on peut pas se passer de ce bitume-là. Et il est pourtant, c'est les deux en même temps, si vous voulez. Il est absolument nécessaire à l'appareil économique international. Et en même temps, c'est vrai que, contrairement au pétrole saoudien, par exemple, c'est un pétrole qui demande beaucoup de travail et de technologie pour être consommable dans l'industrie internationale. Donc, ça requiert des investissements très lourds, très forts.
Que pour l'instant, le Venezuela peut pas faire.
Que le Venezuela ne peut pas faire, mais le Venezuela ouvre les concessions, hein, en particulier dans ce qu'on appelle la faille de l'Orénoque, qui est sous le lac de Maracaibo, ouvre des concessions et il vend des parcelles à des compagnies internationales, en particulier aujourd'hui chinoises et russes qui ont le vent en poupe, accessoirement encore à quelques européennes, dont Total, si je dis pas de bêtises, pour exploiter en quelque sorte en se mettant d'accord sur le prix des concessions, les royalties, etc.
Une toute dernière question, Christophe Ventura, au-delà de Cuba dont on a parlé à l'instant, les alliés du Venezuela, c'est qui? Les voisins disent quoi?
Alors, aujourd'hui, le Venezuela concentre les fractures entre les pays, disons, de centre-droite et de droite latino-américains et ce qui reste des pays issus des gauches latino-américaines. Il y a ce qu'on appelle le groupe de Lima qui regroupe 11 pays américains, dont le Brésil, l'Argentine, Brésil qui connaît aussi des vicissitudes démocratiques très importantes, mais c'est pas le sujet du jour, Argentine, Pérou, etc., Mexique, dont tous ces pays-là sont en fait alignés sur les exigences de l'opposition, sont contre le gouvernement de Maduro. Monsieur Macri, en Argentine, par exemple, exige que les États-Unis stoppent les importations de pétrole vénézuélienne. Ça, c'est ça. Et puis, d'autre côté, vous avez la Bolivie, le Nicaragua, Cuba et encore l'Équateur qui aujourd'hui soutiennent le Venezuela, ce qui fait qu'il n'y a aucun consensus en Amérique latine sur le cas vénézuélien et l'Uruguay est un peu entre les deux. Au niveau international, évidemment, nous, on est plus habitués à lire ce qui se passe en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, mais le Venezuela a de gros alliés. Le Venezuela a des alliés indéfectibles qui s'appellent Chine,
Russie,
Inde, pays du G77, etc., Iran, etc. Donc, nous, peut-être, ça nous défrise un peu, mais enfin, en tout cas, du point de vue du Venezuela, ça lui fait quand même encore des poids lourds qui peuvent, sur lesquels il peut s'appuyer dans la crise actuelle.
Voilà, on n'a pas fini donc d'entendre parler de Nicolas Maduro. Il n'est pas encore destitué, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Christophe Ventura, chercheur à l'URI, spécialiste de l'Amérique latine. Merci beaucoup.
Merci.
De votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au Liban, dans les camps de réfugiés syriens. Alexandra Acouille, l'œil sur la planète média. Alexandra, ça commence avec des excuses du Washington Post, ça fait des ordres un peu, non?
Eh oui, parce que le Washington Post a été pris en faute sur une photo un peu mensongère qui concerne Donald Trump sur Twitter.
Voilà, pris en faute par Donald Trump, ça le fait pas du tout. Antoine Gignot, Brexit saison 2 ensemble.
Et le grand retour de Theresa May, réapparition, reconstruction, presque résurrection pour la Première Ministre, on en parle tout à l'heure.
On voit ça ensemble, Anthony Bélanger, si on était en Arabie Saoudite, vous iriez au cinéma, dites-moi.
Enfin, pas tout de suite, début 2018 peut-être, et encore des salles de cinéma. En Arabie Saoudite, effectivement, vous avez raison, pour quel film, mais surtout, à quoi ça sert?
Ah bah vous nous direz, tiens, pour quel film, si on peut voir La Guerre des Étoiles par exemple. Allez, à tout de suite, merci de nous écouter. On commence à peine notre tour du monde quotidien. MGMT, Little Dark Age, sur France Inter. MGMT, Little Dark Age. Il paraît que c'est un retour et la promesse d'un nouvel album. Dites-moi, Florence Paracuello, c'est là. Power Hit Radio. Magic FM. Florence Paracuello, pliée sous les radars, comme tous les jours, pour vous ramener l'actualité internationale que vous avez manquée, direction l'Italie d'abord, où la justice essaye autre chose pour rendre les divorces moins conflictuels.
Pour que les séparations ne ressemblent plus à ça.
Fuori tu! E pure tu!
Io sto a casa mia sotto il tetto con uguale! Di qua non mi mo...
Et pour que ces séparations ne ressemblent plus à ça, en Italie, les magistrats sont en train de tester une application, une appli sur portable ou sur ordinateur pour que les couples se comportent correctement pendant et après les divorces. Pour tout ce qui a trait aux questions pratiques, la garde des enfants, les pensions alimentaires, ils doivent se connecter et leurs échanges sont visibles par les juges ou les travailleurs sociaux qui possèdent leur mot de passe et leur code d'accès. Et tout est archivé en cas de litige. Le système a été inventé par un avocat après un divorce particulièrement douloureux et ces divorces conflictuels sont en hausse en Italie, selon les Échos qui rapportent cette innovation. Ce projet Antea, c'est un choix de transparence qui fait honneur aux deux parties, dit son créateur. Son objectif premier, c'est de protéger les enfants qui sont les premières victimes en cas de conflit entre leurs parents. Là, on voit vraiment ce qui se passe entre les ex qui souvent s'accusent mutuellement quand ça ne va pas et c'est compliqué de savoir qui a tort, qui a raison dans ce genre de cas. Et l'autre vertu d'Antea, c'est l'autocensure, parce que quand on sait que ce qu'on dit est visible par un tiers, évidemment, on fait plus attention.
Et oui, ça change tout. Florence, voilà une séparation, là, pour le coup, qui se passe bien.
Oui, alors je pourrais vous chanter Shabadabada, Shabadabada. C'est un méli-mélo sentimental américain, l'histoire de deux couples. Les messieurs sont des agents de police, et ces deux couples, qui sont copains, réalisent que chacun... est attiré par la femme de l'autre, donc
faut pas se gêner en même temps.
Du coup, ils échangent, ils décident d'échanger leur famille. Ils échangent de famille en fait. Ces deux couples échangent de famille. Sauf que le shérif, qui est le patron de ces deux agents de police, va s'apercevoir de ce transfert mutuel opéré sans divorce et qu'il va se fâcher. Il va virer les deux agents. Et cette histoire va aller jusqu'en Cour suprême aux États-Unis, des États-Unis, qui a confirmé aujourd'hui que oui, le shérif a eu raison de virer ces deux agents qui vivent très heureux avec le couple qui n'est pas le leur. Oui, il a eu raison parce que sur le code de conduite du shérif de Bossier, c'est la paroisse où s'est passée cette affaire, eh bien ce code de conduite stipule noir sur blanc qu'il ne faut se livrer à aucune conduite illégale, ni immorale, ni indécente quand on est policier. Ben voilà, c'est raté.
Ben voilà, donc c'était indécent. Allez, Poutine partout, Poutine dans une expo à Moscou.
L'expo Super Poutine, inaugurée mercredi dernier dans une usine désaffectée de la capitale, mercredi, jour de l'annonce de sa candidature pour un quatrième mandat de président. Et quel homme, ce Poutine, Fabienne, on le voit portraituré dans tous les styles, figuratif, classique, en tenue de Père Noël, avec une babouchka, une grand-mère, à cheval sur un ours géant avec un bouclier, une armure. Et bien sûr, en super-héros, tirant des roquettes aux couleurs de la Russie. Joie de l'organisatrice de l'expo.
Vladimir Vladimirovitch, он настоящий супергерой, который он даже не супер.
Vladimirovitch n'est pas seulement un super-héros, il est aussi un super président et un super leader. C'est pour ça que notre exposition s'appelle Super Poutine. Et la jeune femme de poursuivre sur toutes les qualités du grand homme. Franc, sportif, mélomane, protecteur des animaux. Autant d'images savamment orchestrées par la communication présidentielle. On est au summum du culte de la personnalité.
Ben écoutez, super Florence, merci beaucoup. Si vous trouvez le Poutine Père Noël, moi qui ai l'esprit de Noël, je prends, s'il vous plaît.
Je vous le rapporte.
Merci beaucoup.
Konnichiwa.
France Inter.
A Konku Tolo.
A Bombeshmaio.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
Le reportage d'un jour dans le monde nous emmène au Liban ce soir. Au Liban, dans un presque camp de réfugiés syriens, vous me direz, ça sonne pas vraiment comme un camp de réfugiés. Ben vous avez raison, ici on fait de la musique. En réalité, nous sommes à mi-chemin entre Beyrouth et Damas. Une école de musique accueille de jeunes réfugiés. Ils ont entre 10 et 18 ans. Ils vivent dans des baraquements de fortune éparpillés le long de la frontière. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour Fabienne, bonsoir
et
à tous.
Et vous avez pu, pardon Sébastien, visiter cette école à la frontière syrienne.
Une école fondée par Fawaz Bakker, l'ex-directeur du conservatoire d'Alep en Syrie. Un compositeur
compositeur autodidacte, un multi-instrumentiste passionné, convaincu des vertus de la musique comme moyen d'émancipation. C'est d'ailleurs le sens de ce projet, offrir de vraies perspectives d'avenir à cette jeunesse brisée par la guerre.
Et votre reportage se passe donc à Bar Elias, au Liban. On y va, on se retrouve dans un instant.
C'est une maison de plein pied dans la vallée de la Beka, 4 km de la frontière syrienne. La nuit, on y entend parfois les combats. La journée, les échos de la guerre laissent place à la musique. Dans la salle principale, une dizaine d'adolescents répètent un air traditionnel. Jean et basket, Maj ou du bouzouk, un luth à longs manches. Aujourd'hui âgée de 14 ans, elle a quitté Homs à 9 ans avec ses parents.
Dans mes souvenirs, il y avait des bruits horribles. Beaucoup d'enfants mouraient sans raison. Je me souviens qu'on ne demandait pas grand-chose. On a dû fuir la Syrie pour devenir des étrangers ici. La plupart des enfants n'ont aucun souvenir de leur pays.
À ses côtés, penchée sur son oud, Anadi, 14 ans, originaire d'Alep. Chassée par les bombardements, elle a vécu 2 ans réfugiée dans une école avant de fuir pour le Liban. Aujourd'hui, la jeune fille vit dans le camp de Chatila, à Beyrouth.
À Chatila, il n'y a pas d'eau potable, uniquement de l'eau salée. Les rues sont très sales, il y a toujours des montagnes de déchets. Les gens se comportent mal, on se fait souvent insulter, il est dangereux de s'y promener.
Pour Anadi, la musique est une respiration. Elle rêve de l'enseigner à l'université, même si son père s'y oppose, considérant la musique haram, interdite par l'islam, mais Anadi s'accroche à son rêve.
Étudier la musique m'a beaucoup appris. Je ne connaissais pas grand-chose, je lisais très mal. Ici, je me suis améliorée en lecture, j'ai beaucoup appris sur la vie en général.
Comme elle, les camarades d'Anadi n'avaient jamais touché un instrument de leur vie avant de mettre les pieds dans cette école. Samar leur enseigne l'accordéon, le jeune professeur est subjugué par leur capacité d'apprentissage.
La plupart d'entre eux ont vécu des expériences très dures, ils ont été témoins de choses horribles et on peut ressentir leur passion. Ils essaient d'échapper au drame à travers la musique, ils sont très rapides et ils réussissent ici autant qu'ils ont souffert là-bas. Rien que de sortir du camp et de venir à l'école, pour eux, c'est une thérapie.
En 3 ans, 150 élèves sont passés par l'un des 3 centres ouverts par l'ONG Action for Hope au Liban et en Jordanie. Widad est la mère de Iba, 13 ans, qui apprend l'accordéon. La famille originaire de Homs vit dans une cahute près de la frontière.
La musique est une vraie nourriture de l'esprit pour les enfants. Elle les sort de nos conditions de vie difficiles. Ma fille a beaucoup changé. Et même pour nous, à la maison, quand on la voit jouer de la musique, ça nous donne de l'espoir. C'est une vraie nourriture de l'âme. J'aimerais vraiment que ma fille devienne prof de musique.
Si l'implication des parents est déterminante, elle ne va pas de soi. Certains rechignent à voir leur enfant jouer dans des cabarets ou des restaurants qui vendent de l'alcool. Et la musique peut devenir une source de conflit quand une jeune fille rêve de faire carrière plutôt que de se marier à 17 ans. Basma El Houssini est la fondatrice d'Action for Hope.
C'est une expérience qui change la vie pour les jeunes filles. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'elles sont désormais musiciennes qu'elles échapperont à un mariage forcé. Il y a de nombreux facteurs à remplir pour stopper ces mariages arrangés, dont le fait de fournir un revenu à ces familles, car elles n'ont pas de revenus. La plupart de ces gamines viennent de milieux très conservateurs. Ils pensent que bien traiter leurs filles, c'est les protéger du vice dans la société. Convaincre les familles que le fait de rendre leurs filles plus fortes est plus protecteur pour elles, ça n'est pas facile.
Quand leurs enfants sont en cours, les parents sont indemnisés $1 ou 2 par jour pour compenser une éventuelle perte de revenus. Ex-directeur du conservatoire d'Alep, le Syrien Fawaz Bakker est le fondateur de l'école de musique. Outre cette aide financière, l'essentiel pour lui est d'apporter un secours culturel aux enfants.
Le plus important, en fait, c'est de former des vrais musiciens. C'est des enfants qui ont très peu dans la vie, donc la musique, elle a beaucoup de place dans leur vie. Et du coup, ils deviennent vraiment créatifs très vite. Je pense que la musique n'est pas seulement un divertissement. L'art, c'est vraiment un laboratoire pour une société, pour recréer des nouvelles identités. Je veux dire, finalement, même ceux qui veulent abandonner la musique, ça sera vraiment des êtres un peu plus tempérés et un peu plus ouverts. Parce que moi, finalement, je n'essaie pas de faire passer mes idées à moi à travers cette musique. J'essaie de leur donner les moyens d'avancer dans la vie.
d'avancer dans la vie aussi. Sébastien Sabiron, juste un dernier mot.
Oui, à propos de l'ambition de Fawaz Bakker à dresser des ponts musicaux entre l'Orient et l'Occident, il prévoit de faire jouer ses élèves les plus talentueux sur les scènes françaises. Il rêve aussi d'inviter de jeunes Français dans cette école de Bar-Ilias.
Et on suivra ça avec plaisir avec vous. Merci beaucoup.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Esse.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le lundi, des nouvelles hebdomadaires du Brexit. Antoine Gignot, bonsoir. On vous a lâché la semaine dernière sur une presque bonne nouvelle, la poursuite du processus de divorce. Voilà où nous en sommes, donc ça va mieux pour votre première ministre. Elle respire, Theresa May, non ?
C'est sans aucune comparaison. Oui, elle était au bord de la démission, Theresa May. Elle est devenue, depuis le compromis trouvé la semaine dernière avec l'Union européenne, un soldat exemplaire, c'est le terme qui est repris par les journaux, une combattante du Brexit qui non seulement passe ses nuits à négocier, mais qui trouve en plus le temps, le lendemain, d'aller rendre visite à des malades dans une institution caritative. Là aussi, c'était en une de plusieurs journaux. Theresa May applaudie par les conservateurs, même ses adversaires comme Michael Gove, partisan d'un Brexit dur, et qui parle d'une victoire personnelle de la Première Ministre. Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, salue sa détermination. Autrement dit, l'ambiance a totalement changé. Je vous donne deux images, deux photos cet après-midi pour comprendre. Il y avait d'abord, devant le Parlement, des militants anti-Brexit réunis dans le square à côté de Big Ben. Ils avaient comme d'habitude des drapeaux européens, des pancartes, des vêtements bleus, des slogans. Sauf que pas du tout comme d'habitude, il neigeait, leur drapeau était trempé et ils n'avaient pas trop le moral. Et puis deuxième photo, à l'intérieur du Parlement, grand sourire pour Theresa May à la tribune face aux députés. Il y a, c'est ce que dit la Première Ministre, un nouveau sentiment d'optimisme dans les négociations, Fabienne.
Alors optimisme, d'accord, mais notons Antoine que sur l'Irlande, c'est pas tout à fait réglé. Quand même, contrairement à ce qu'on entend, non ?
Non, en fait, en acceptant d'écrire qu'il n'y aurait pas de frontière physique entre le nord et le sud de l'île, en promettant qu'il n'y aurait pas non plus de statut spécial en Irlande du Nord, le gouvernement a réussi à faire plaisir à tout le monde. À la fois les républicains qui ne veulent pas que l'île soit divisée et les unionistes qui ne veulent pas être séparés du reste du Royaume-Uni. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune solution pratique pour concilier les deux. Il y aura donc au final des gagnants et des perdants. Et pour continuer à contenter tout le monde, pour garder son poste, Theresa May va devoir faire très attention dans les semaines qui viennent aux mots qu'elle utilise. Elle a déjà commencé, d'ailleurs, je vous donne un exemple.
Allez-y.
Cet après-midi, devant les députés, à la tribune, la Première Ministre a commencé par dire « Le Royaume-Uni ne payera pas pour garder un accès à l'Union Européenne ». Et puis juste après, elle a repris la parole pour expliquer « Le Royaume-Uni pourrait en revanche payer pour participer à certains programmes européens ». Vous voyez, tout est dans la nuance.
Allez, sinon, une petite subsidiaire, vous avez une devinette pour moi.
Oui, pour un banquier, qu'est-ce qui fait encore plus peur que le Brexit ?
Ben, je ne sais pas, allez-y, le père Fouettard.
C'est presque ça. La réponse, c'est Jeremy Corbyn. L'arrivée de Jeremy Corbyn au pouvoir, ce n'est pas une blague. C'est un rapport publié par la banque d'investissement Morgan Stanley. Les analystes ont planché sur plusieurs scénarios pour l'année 2018. Et l'un des scénarios, c'est le chaos total. Pas d'accord commercial avec Bruxelles, des négociations qui s'enlisent. Imaginez, il a fallu un an pour signer un accord de 15 pages. Alors, pour un accord commercial sur le modèle de celui du Canada qui tient sur environ 1500 pages, le calcul est vite fait. On n'y arrivera peut-être pas. Dans ce scénario d'enlisement, c'est écrit noir sur blanc, la principale menace pour les investissements, pour le business, ce serait l'arrivée au pouvoir de Jeremy Corbyn. Plusieurs magazines, plusieurs journaux de droite écrivent aujourd'hui dans leur page, préparez-vous, message à destination des patrons, d'autant plus écouté que Corbyn lui-même a répondu, et il a répondu, vous avez raison de vous méfier quand il disent que nous sommes une menace.
Antoine Gignot qui feuilletonne le Brexit pour nous dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Alexandra Akoun est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
La planète média, Alexandra, on commence comme tous les lundis par le fake de la semaine. Et là, c'est une grosse claque.
Oui, c'est une photo postée vendredi sur Twitter par un journaliste du Washington Post, Dave Wiggle. Une image des gradins à moitié vide d'un stade de Pensacola en Floride où Donald Trump devait tenir meeting quelques minutes plus tard. Le journaliste moquait toutes ces places vides. Et pour cause, en fait, le meeting n'avait pas commencé. Une foule massive attendait encore à l'extérieur, ce qui n'a pas manqué d'être rapidement signalé. Et le tweet a vite été effacé. Le problème, c'est que Trump a sauté sur l'occasion, trop belle évidemment, pour démolir une fois de plus les médias et leur crédibilité. Et il se trouve que l'après-midi même, la chaîne CNN, que le président américain déteste profondément, avait elle aussi fait une erreur, rectifiée en quelques minutes sur un autre sujet. Tout cela a bien sûr trouvé sa place dans le discours de Pensacola. Vous avez vu toutes les corrections des médias qui disent « Oh, désolé, ils ont fait ça toute l'année, ils ne présentent jamais d'excuses ». Dave Wiggle, lui, s'est excusé, mais le président américain réclame sa tête, son débarquement du Washington Post. Un vrai coup dur pour le journal, jusqu'ici irréprochable, et qui apporte évidemment de l'eau au moulin de Trump, hein, qui ne cesse de dénoncer les fake news des médias. Une idée qui semble faire son chemin dans l'opinion américaine. Un récent sondage a montré que la moitié des Américains trouvent les médias trop négatifs envers Trump. 78% des Républicains pensent carrément que les articles à son propos sont fabriqués de toutes pièces. Malgré tout, ils ne sont qu'un tiers au total à faire confiance au président américain pour dire la vérité.
Allez, un nouveau record indicatif de la pression qu'Erdogan appuie sur les médias turcs.
En une semaine, pas moins de 68 journalistes et collaborateurs des médias ont comparu dans 4 procès distincts. Tous sont accusés d'appartenance ou de soutien à une organisation terroriste, un classique hein, désormais dans ce pays, où plus de 150 médias ont été fermés depuis juillet 2016. Dernier jour de ce marathon aujourd'hui, avec la comparution notamment des frères Altan, Ahmet et Mehmet, tous deux grandes figures du journalisme en Turquie. Le procureur devait cette fois-ci rendre son réquisitoire. Il risque la prison à vie.
Direction maintenant le Cachemire, Alexandra, le Cachemire indien, où un journaliste français est en détention provisoire.
Il s'appelle Paul Komiti, il a 47 ans. Reporter indépendant, il a été placé en garde à vue samedi à Srinagar, capitale du Cachemire indien. Paul Komiti a été convoqué après avoir assisté à une manifestation contre les violations des droits de l'homme par les forces de sécurité indiennes. Les autorités lui reprochent d'être entré sur le territoire avec un visa d'affaires et non de journaliste.
Et puis enfin, son fils est victime de harcèlement à l'école. Une mère du Tennessee met sur Facebook une vidéo du gamin. Il est en pleurs, on va l'entendre. Et c'est un buzz planétaire, Alexandra.
Pourquoi s'en prennent-ils tant de plaisir? Ça fait tellement mal. Ils se moquent de mon nez. Ils disent que je suis affreux, que je n'ai pas d'amis. Et ça dure comme ça pendant une minute, un petit garçon en pleurs dans la voiture de sa mère, visiblement devant l'école, qui lui raconte les brimades, les moqueries. Ce petit garçon, il s'appelle Keaton. À sa demande, sa mère a posté cette vidéo sur Facebook vendredi soir. Elle a été vue, attention, 22 millions de fois, partagée 430 000 fois. Sur Twitter, le hashtag Stand with Keaton, debout avec Keaton, est devenu en quelques heures l'un des plus populaires de la planète. À tel point que des stars comme Mark Hamill, c'est-à-dire, attention, hein, Luke Skywalker dans Star Wars, hein, ou encore l'acteur Chris Evans qui incarne Captain America, ont répondu à Keaton. Le rapport Snoop Dogg même, hein, qui n'est pas forcément connu pour être le type le plus avenant de la planète, l'a carrément encouragé à lui parler en messagerie privée en lui disant « Yo mon petit gars, t'as un ami avec toi pour la vie ». Une cagnotte a même été ouverte pour Keaton. 28 000 $ ont été récoltés. Si c'est pas beau ça.
Mais écoutez, c'est beau, il paraît que Donald Trump Jr. a proposé de l'héberger à l'hôtel Trump de Las Vegas. Je ne sais pas s'il a dit oui. Et c'est les harceleurs qui vont être verts, et verts au premier sens du terme, puisque même Hulk, Mark Ruffalo, a donné son soutien. C'est la totale des super-héros. Il en a pour toute la semaine. Allez, merci beaucoup, Alexandra, l'édito d'Un jour dans le monde. Avec vous, Anthony Bélanger. Anthony, si vous alliez en Arabie Saoudite au début du mois de janvier, par vers exemple, 2018, et que vous vouliez occuper vos soirées parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas, vous auriez le droit d'aller au cinéma.
Oui, d'abord, il faudrait que je puisse y rentrer parce que vous savez que comme il n'y a pas de tourisme en Arabie Saoudite, donc je ne pourrais pas y rentrer à moins d'avoir un visa de journaliste.
Mais vous êtes journaliste, bref, souvenez-vous.
C'est vrai. C'est une première, effectivement, depuis 35 ans, depuis 1979 exactement, date à laquelle les dernières salles de cinéma ont été fermées au cours d'une vague de purification dont le royaume wahhabite a le secret. 1979, ça ne vous rappelle rien?
Pas grand-chose.
C'est l'année de la révolution iranienne. Mais si, l'année où Khomeini, donc, a renversé le régime policier du Shah en l'accusant notamment de corruption des mœurs, en lieu et place d'une monarchie, les religieux iraniens ont donc instauré une république et islamiste de surcroît, un double cauchemar pour les Saoudiens qui ont immédiatement réagi. C'était à l'époque, hein, un peu comme le monsieur plus de la publicité, c'était toujours à l'époque. Les Iraniens, eh bien, instaurent une république islamique. Nous ferons encore plus sourcilleux et plus puritains, d'où la fameuse fermeture des cinémas. 35 ans plus tard, toujours avec la même obsession iranienne en tête, eh bien le pouvoir saoudien décide donc d'accorder royalement à son bon peuple ébaubi la grâce de quelques salles de cinéma. Et le monde entier applaudit et reprend cette nouvelle comme un signe d'ouverture.
Et en même temps, là je vous entends, vous avez l'air d'un garçon sceptique, Anthony.
Bon, vous commencez à me connaître. D'abord, entrons dans le détail. Que pourront voir les Saoudiens dans ces salles? Je le prédis d'avance, des salles qui seront d'un luxe tapageur. On a déjà une vague idée en regardant tout bêtement la liste des films diffusés sur la compagnie nationale nationale aérienne saoudienne, évidemment. Parce qu'évidemment, hypocrisie quand tu nous tiens, l'interdiction religieuse des salles de cinéma ne s'applique pas aux avions saoudiens. En résumé, toute la violence que vous voulez, mais pas un baiser, pas une épaule dénudée, l'amour, l'amour flouté, ça c'est sûr, l'alcool flouté, la promiscuité absolument interdite. Il reste... Je vous donne dans le mille.
Allez-y.
Les trois volets de la planète des singes, par exemple.
Ils boivent pas dans la planète des singes.
Ah non, en tout cas, les singes se battant avec les hommes, ça va à peu près. Autrement dit, les films diffusés par les salles saoudiennes devront d'abord et avant tout passer par l'étape redoutable de la censure islamique locale. Il va pas rester grand-chose, ça aussi, je peux vous le prédire. D'autant que les Saoudiens sont déjà passés à autre chose, figurez-vous. C'est le peuple au monde le plus connecté à Internet et les plus gros utilisateurs de réseaux sociaux au monde, toujours. Autant dire qu'ils n'ignorent rien des plateformes Internet de cinéma et tout bêtement du streaming.
Alors ce que vous dites c'est que ça sert à rien en fait, donc pourquoi on l'annonce avec tellement de conviction ?
Eh bien en fait cette annonce a plusieurs buts. Le premier c'est de rabattre le caquet des religieux du pays. Par exemple le grand moufti d'Arabie Saoudite, c'est la plus haute autorité religieuse du pays qui il y a quelques mois à peine avait expliqué que les films commerciaux étaient une source de dépravation, eh bien pan sur le chéchier. De plus, le prince héritier Mohamed Ben Salman n'a pas oublié les religieux dans la vague d'arrestations du mois dernier, y compris des religieux qui réclamaient une plus grande ouverture du régime, bon, mais aussi une démocratisation politique. Alors là, non, en clair, le prince héritier, fait passer auprès des religieux deux messages. C'est moi qui décide ce qui est halal ou non, et restez dans votre domaine, n'allez pas mettre votre nez dans les affaires politiques du royaume. Enfin, il y a un message à la société saoudienne dans son ensemble, hein, patientez encore un peu, je n'en suis qu'au début. Et puis un dernier message aux Iraniens, ce qui est moderne, eh bien se passe de ce côté-ci du golfe persique, du golfe arabique.
Alors, les Saoudiens, ce sera la dernière question, Anthony, est-ce qu'ils apprécient cette révolution venue d'en haut ou pas ?
Bon, en tout cas, c'est une vieille histoire, que cette volonté de flatter le peuple, vous savez, en lui donnant des os à ronger, c'est même vieux comme l'Empire romain. Panem et circenses, du pain et des jeux. D'un côté, le prince héritier, il y a raison de s'inquiéter. La population saoudienne, encore une fois, est très jeune, très éduquée, et puis aussi très frustrée. De l'autre, je ne suis pas certain, mais alors pas du tout certain, que quelques salles de cinéma et quelques permis de conduire accordés aux femmes suffiront à calmer à terme tant de frustrations accumulées.
Anthony Bélanger dans Un jour dans le monde, merci beaucoup, belle soirée à vous, merci de nous écouter, vous restez dans le 18-20 de France Inter avec le journal d'Yves Descamps dans un instant et puis nous sommes avec Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire dans le téléphone sonne.